revue de presse, Claude Ascolovitch.
France Inter, le 7-10.
Et Claude, vous nous parlez ce matin d'un poème.
Que je suis allé chercher sur Internet ce matin pour nourrir mon deuil. Et sur un site précieux, Kern, qui met en ligne des revues essentielles, ici la revue Poésie, j'ai trouvé ceci. L'opacité du monde semblait s'ouvrir au ruissellement confondu de la parole, de la lumière et du sang. J'ai cru traverser vivant le nœud dont je naissais, l'illumination fixe de quelques mots inespérément accordés. Le poète, dont les mots perçaient l'incongruité d'être, s'appelait Jacques Dupin, mort en 2012, qui il y a plus de 50 ans avait accueilli un grand Américain à Paris sans le sou qui aimait Montaigne. Et combien de repas, combien de bouteilles de vin, combien de cigarettes fumées en la présence de l'autre, combien de mots partagèrent dans leur vie Dupin et Paul Auster, qui plus tard traduisit en anglais les textes de son ami et lui rendit hommage à sa mort avec grâce à la Maison de l'Amérique. Vous le verrez, cet hommage d'Auster en quelques clics sur Internet, qui n'est pas une mauvaise chose, puisqu'elle nous préserve encore un moment cet homme dont le site de New York Times nous a appris la mort à la fin de cette nuit, âgé de 77 ans. Et sur les sites de nos journaux fleurissent alors les petits trésors de Paul Auster, qui fut, me dit le New York Times, the romancier de Brooklyn et une rockstar à Paris. De chez nous, Auster avait ramené une façon d'écrire, forcément sur des cahiers Clairefontaine. À nous, il lègue des sourires qui me restent. Au Nouvel Obs en 2011, Auster et son épouse Siri Hutzved, écrivaine comme lui, avaient raconté l'effarement de l'ami poète Dupin quand l'été 88, ils nourrissaient leur fille Sophie, âgée de 1 an, en disposant son repas devant elle et en la laissant s'en débrouiller seule. Et j'aime relire ces morceaux de vie légers qui animaient Auster aussi bien que les choses les plus graves. Allez relire sur les sites des Échos, de Télérama, de Libération, son engagement contre les armes à feu qui dévastent l'Amérique. Auster avait écrit les textes d'un livre glaçant paru il y a 1 an, Pays de sang, légende de photos de lieux de meurtre de masse, photos prises par Spencer Ostrander, le gendre de Auster, l'époux de sa fille Sophie, qui est trentenaire et chanteuse, et je le réalise maintenant, désormais orpheline. Et il me revient alors que Paul Auster, qui butait sur la vie et les mots, était devenu écrivain par la mort de son propre père. Un choc et un déclic, écrit Le Monde dans une belle nécrologie. 3 semaines plus tard, il couche sur le papier les premiers mots de l'invention de la solitude. La prose coule naturellement. Et me revient aussi que l'invisible frontière entre la mort et la vie fut la compagne de Paul Auster, qui il y a 2 ans avait perdu son fils et une petite fille dans les enfers de la drogue. Lui-même, il s'en était souvenu, dans un livre de souvenirs, avait failli mourir à 3 ans dans un supermarché, ça je le retrouve sur le site du Nouvel Obs. Lui-même, ça je le lis dans la nécrologie de Libération, avait vu mourir devant lui dans une excursion de camp de vacances. Il avait 14 ans, l'été 61, un adolescent qui rampait devant lui frappé par la foudre. Et Auster, dont la tête était à la hauteur des pieds du jeune mort, avait été hanté pour toujours par l'aléatoire de la Camarde. Il en avait fait littérature, une littérature hantée de fantômes, mais pourtant légère comme la fumée de ses cigares hollandais. Et quand il nous quitte, son moment venu, avant de rouvrir ses livres, je relis les amitiés que Auster inspirait, son lien épatant avec l'écrivain sud-africain Paul Coetzee, qui en mars dernier, dans le Nouvel Obs, l'espérance sauvée du cancer, l'invitait à raconter l'histoire de ses voyages et avec qui il avait mené une correspondance minutieuse et profonde à l'ancienne par lettres papier, qui avait donné un livre que Le Monde, l'été dernier, racontait joliment. Je relis aussi dans Le Monde encore l'anecdote fondatrice d'un gamin de 8 ans dévoré de baseball, ratant l'autographe de son héros Willie Mays parce qu'il n'avait pas de crayon. Depuis ce soir-là, j'ai toujours eu un crayon sur moi où que j'aille, disait Auster, et je le dis à mes enfants, c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Et on parle aussi, Claude, d'un pressentiment.
Une pensée plus forte que la raison qu'il y a 30 ans avait saisi un grand journaliste, alors à l'équipe, Philippe Brunel, qui s'en souvient sur le site de West France. L'idée que ce jour-là, 1er mai 1994, un pilote allait mourir dans la chaleur atroce qui enserrait le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin, la veille déjà aux essais était mort l'Autrichien Roland Ratzenberger. Et Brunel alors fit cette chose très morbide. J'ai descendu la grille de départ et je l'ai remonté pilote par pilote en fixant leur visage pour savoir à qui correspondait ce pressentiment. Je suis arrivé devant Ayrton Senna, pâle et livide, le casque posé sur la monoplace comme un masque funèbre, et je me suis dit il ne devrait pas prendre le départ. Et ce jour-là, Ayrton Senna mourut effectivement, et vous lirez sur les sites de l'équipe, du Point, du Figaro, comment Senna au plus profond de lui-même aurait voulu ne pas courir ce jour-là. Et l'éternité de Senna, qui un jour, ça je le lis dans le Figaro, avait au péril de la sienne sauvé la vie d'un pilote accidenté, la stupeur durable de l'absence de Senna qui pilotait parfois au-delà de toute perception consciente, cette stupeur se marie dans celle de la non-existence de Paul Auster, où nous entrons, elle imprègne ce que je lis. Ainsi, sur le site de la montagne, je lis l'amitié, la sororité qui est née en France, en Saône-et-Loire, dans un hôtel, dans les festins que concocte Katia, ukrainienne réfugiée, et Rima, russe d'origine tatare, devenue sa patronne, son amie. Je pense aux douceurs de Brooklyn, aux âmes consolées. Et j'y pense encore, lisant sur le site du Nouvel Obs, la correspondance que le journal organise entre deux jeunes femmes, l'une israélienne, l'autre palestinienne de Gaza. Je leur souhaite un jour le café, la cigarette partagée.
Et on parle enfin d'une torture.
Un instrument qu'on appelait le tripalium, consistant de trois morceaux de bois sur lequel on fixait les esclaves punis au temps des Romains. Et ce mot tripalium, cela serait la racine d'un autre, le travail, on en parle aujourd'hui. Et cela fâche fort, sur le site de West France encore, une sémiologue, Mariette Darigrand, autrice d'un livre, L'atelier du tripalium. Non, le travail ne vient pas de torture, qui voit dans cette origine une fake news doloriste et marxiste. En vrai, dit-elle, elle cite Littré, le mot travail viendrait du vieux français travail avec un H à la fin, qui désignait une machine en bois par laquelle on faisait entrer le cheval pour le ferrer, et par le latin, le travail est cousin de la travée, poutre en bois sur lequel repose le toit, et on peut dire alors, dit la sémiologue, que le travail charpente nos vies. Bonne journée.
Merci, oui, c'est la fête du travail. Merci Claude pour cette revue de presse.
La journée internationale des travailleurs, Nicolas.
Pardon.